s'est permis de mettre les gifles.
Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser, d'humilier, déshumaniser. 200 couvrant la télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Un maton.
Et bonsoir.
Salut.
Salut.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon contre toutes les prisons.
Le générique là. Il y avait un changement, non ?
Non, c'était juste... Enfin, je sais pas, moi j'ai eu un problème de casque.
Ah, mais moi aussi, je crois bien.
Enfin, bref. Donc vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon, premier et troisième jeudi de chaque mois, de 20h à 21h. Émission contre toutes les prisons, et retransmise sur Radio Duo, 89.5 autour de Saint-Étienne et à Saint-Étienne, et retransmise grâce à l'équipe de l'émission La Petite Cuillère, sur Radio Canu 102.2 autour de Lyon et à Lyon. Au sommaire ce soir, on est très chargé, on a plein de choses à dire. On va beaucoup parler de Valence et on va beaucoup parler des Basques. Si on a le temps de tout faire, on aimerait bien lire une lettre de prisonnières basques qui sont du côté de Vivonne. On a aussi un mot à passer à propos d'un rassemblement jeudi prochain du côté de Valence qui concerne Aurore, qu'on a déjà eu à l'antenne, qu'on avait eu au téléphone plusieurs fois il me semble, et qui avait été incarcéré pendant quelques temps et qui avait pas mal de galères à la sortie en fait avec son service de probation qui lui mettait un peu des bâtons dans les roues. Et on avait aussi un truc sur une mutinerie qui a eu lieu à Valence il n'y a pas si longtemps que ça, et voilà. Mais du coup, pour commencer, on va avoir à l'antenne Joël, qui fait partie de ATA, donc Amnistita Askatasuna, qui est un réseau de soutien aux prisonniers basques en France, et qui va nous parler. Il y a eu un rassemblement de soutien il n'y a pas si longtemps que ça, et on l'a au téléphone ce soir.
Est-ce que tu nous entends ?
Oui.
Ok, bien. Parfait.
Donc, bonsoir.
Très bien.
Salut.
Oui, bonsoir Joël. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler ensemble du rassemblement s'étant tenu le 24 septembre devant la maison d'arrêt de Valence, dans la Drôme, au travers d'une marche de soutien auprès des deux prisonniers basques Ibon et Alejandro, qui récemment ont été positionnés fin juin sur cet établissement. Et lors du rassemblement, donc, il y a certaines choses qu'on pourrait évoquer et voir un peu comment les choses ont été ressenties de par la manifestation qui a eu lieu. Donc là-dessus... je voulais dans un premier temps te poser la question, à savoir comment a évolué la situation des deux prisonniers suite à la présence, à la manifestation qui a eu lieu.
Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. C'est-à-dire qu'ils sont toujours rentrés dans un isolement, volontaire, c'est-à-dire qu'ils refusent toute communication, donc grève des lettres, de la communication. Communication avec l'extérieur, les parloirs, hein. Et pour l'instant, il n'y a aucun changement.
La, l'administration pénitentiaire n'a pas donné de suite face à la demande de changement de prison, car bien sûr ils sont isolés et que les conditions d'incarcération dans cette prison ne leur permettent pas d'avoir un lien social avec leur famille. Là-dessus, il n'y a pas d'évolution. Et est-ce que d'autres actions visant à dénoncer cette situation ou d'améliorer leurs conditions carcérales est envisagée? Quelle va être l'attitude adoptée par rapport...
Oui. Oui. Ouais. Il y a une lettre type qui a été mise en ligne pour envoyer au directeur de la prison, qui lui a fait une lettre aussi au ministre de la Justice en lui spécifiant que ces deux prisonniers n'avaient rien à faire à Valence. Et donc il n'a eu aucune réponse et nous non plus. On n'a aucune réponse.
Alors, déjà, est-ce que tu pourrais déjà présenter un peu donc si le mouvement donc ATA, peut-être voir. Et principalement, pourquoi, peut-être reprendre le début de l'histoire, si je ne me trompe pas, ils étaient à Fleury avant, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais.
Ouais, et du coup, ils ont, donc, après, voilà, nous, ça nous arrive, on parle assez régulièrement des Basques et un truc qui concerne aussi tous les prisonniers, hein, c'est-à-dire le rapprochement familial. Mais ouais, c'est une grande revendication, en tout cas, des prisonniers basques. Donc peut-être nous rappeler le début de l'histoire, un peu à partir du transfert et du transfert de Fleury à Valence, comment ça s'est passé, comment vous avez été amené vous à faire cette marche justement, si je ne me trompe pas, et puis peut-être après nous raconter un peu le déroulé de la journée, etc. Donc peut-être reprendre un peu du début.
Oui, donc ils avaient été transférés de Paris, en fait une fois condamnés, ils ont été transférés donc à une prison donc à Valence. Donc c'est-à-dire encore plus éloigné que Paris, niveau accès aussi pour les familles et l'éloignement, et c'est une politique en fait voulue par l'administration pénitentiaire d'éloigner. Après il y a eu quelques mouvements ici et d'autres, comme à Bilbao devant l'ambassade, le consulat de France à Bilbao, pour revendiquer donc la fin de la dispersion, le rapprochement, et plus particulièrement eux, car c'est les derniers qui ont été transférés, on va dire, du collectif. Au sujet de ATA, nous, en fait, on est en lien avec donc la famille de Ibon et Alechou. D'ailleurs, il y avait son frère, sa mère, à la marche à Valence. C'est leur premier parloir, mais c'est vrai que de par l'éloignement, on met quasiment 11 heures, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire de parloir même une fois par mois, quoi.
Ouais, d'accord. Et du coup, donc ils arrivent à Valence, et une fois là-bas, si je ne me trompe pas, ils décident eux-mêmes de se mettre à l'isolement, enfin pour voilà, comme moyen de protester contre leur transfert là-bas, ils se mettent eux-mêmes au mitard, c'est ça, non?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Ils bloquent la promenade et en fait, ils demandent à voir la direction qui refuse toute communication avec eux. Donc, le seul moyen pour essayer d'avoir une communication, c'est-à-dire de bloquer la promenade. Et donc là, ils sont partis. D'abord, ils les avaient mis à l'isolement.
Oui.
C'est-à-dire les deux séparés, suite à ça, c'est parti, on va dire, un peu en sucette.
Ouais.
Et c'est là que le directeur les a vus en leur disant que voilà, il avait fait une lettre au ministre de la Justice, mais bon, qui est restée lettre morte. Donc la situation ne bouge pas, donc eux, ils continuent les mouvements dans la prison.
D'accord. Ouais, vas-y.
Bah, en plus, il faut savoir que, si j'ai bien compris, moi, ils ont été placés au quartier Maison Centrale à Valence. Valence, c'est une prison qui a ouvert il n'y a vraiment pas longtemps, donc prison high-tech. Donc, de ce qu'on en sait, c'est les prisons, plus elles sont neuves, plus elles sont sécuritaires, plus la vie y est invivable. Et en plus, les quartiers Maison Centraux, pareil, le peu qu'on en connaît, c'est que c'est des quartiers spéciaux pour les très longues peines. Et que les nouveaux quartiers qui construisent comme ça dans diverses prisons, c'est des, ça a été surnommé par exemple par des prisonniers qui y sont comme des prisons tombeaux, etc. Donc ça, je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles de comment c'était dedans, mais en plus, j'imagine que c'est, ils sont dans des conditions vraiment abominables là-bas.
Oui, ça, la famille, enfin, la famille de Alichoun, elle le sait, le Ibon aussi. Justement, c'est par rapport à tout ça. Il y aura d'autres, d'ailleurs, on pourra en parler après, mais il y aura d'autres mobilisations par rapport à ça.
Et du coup, quand tu dis, quand ils ont bloqué la promenade, ils sont... Enfin, concrètement, ils se sont retrouvés à deux à bloquer la promenade ou...
Oui, oui,
d'accord.
À deux, ouais.
D'accord.
Ouais.
Ok. Ok, ok. Et du coup... peut-être que ouais, justement, enfin toi tu par rapport à la peut-être justement revenir un peu sur Valence, j'ai vu qu'il y avait donc un communiqué qui était sorti, alors notamment suite à la mutinerie, où il me semble que donc les deux prisonniers en question là, donc je crois que c'est, on prononce Alechu, c'est ça?
Ouais.
Ok, Alechu et Ibon. Et justement parlait de ces conditions de détention, qu'en gros comme disait Elsa avant, que par rapport au CD ça fonctionnait comme une maison d'arrêt, alors qu'un centre de détention théoriquement les prisonniers ont plus de liberté de mouvement que dans une maison d'arrêt, et que dans cette prison là par exemple il y avait que très peu des sorties très très courtes, qu'il y avait une pression et une espèce de tension avec les matons qui était assez quotidienne, du courrier qui était régulièrement censuré, voire qui même passait pas, et des abus quotidiens. Alors ça, j'ai vu ça sur un communiqué qui avait été écrit. Est-ce que toi, tu aurais des choses justement à dire là-dessus, ou est-ce que des échos que vous auriez eu, que la famille aurait eu par rapport à ça? Alors c'est un peu la même question qu'on vient de poser avant, mais est-ce que voilà.
Je sais que ils ont droit à 1 heure de promenade par jour. Après, oui, à leurs conditions, en fait, ils sont quasiment tout le temps enfermés, même pour faire du sport. Et ça, c'est vraiment déjà de par leur détenu, par leur étiquette DPS, déjà ils n'ont pas droit à certaines choses. Et que...
Ils n'ont pas le droit à certaines choses, et en plus, ils sont escortés à chaque fois qu'ils bougent en fait dans l'établissement.
Oui, c'est ça. Voilà.
Voilà. Comme s'ils étaient une menace permanente. Comment ?
On les appelle les taxis, les matons qui font ça. Qui amènent à droite, à gauche. Voilà.
Alors, j'ai vu aussi, d'ailleurs, dans ce communiqué, ça c'est quelque chose que je savais pas, que c'était l'une des premières prisons à avoir un système de brouillage d'ondes pour éviter les communications avec les téléphones portables. Voilà, j'ai vu ça également. Ouais. Du coup, voilà. Et alors, pour revenir à la journée du 24 donc septembre qu'il y a eu, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, quelles étaient un peu les attentes des gens du Pays Basque qui se sont déplacés, parce que si je me trompe pas, vous êtes quand même déplacés à très nombreux. C'est vrai que moi, je me rappelle d'un rassemblement qu'il y avait il y a quelques années à Rouen par rapport à une prisonnière, je crois que c'était qu'elle s'appelait Laurentia Guimond, si je me trompe pas. Et donc voilà, nous on s'était rendu là-bas, et c'est vrai qu'on avait été quand même assez impressionné par voilà, il y avait tout un bus entier de Basques qui était venu pour se pointer devant la prison et faire un rassemblement de soutien, et qui avait fini par une petite marche jusqu'au centre-ville. Voilà, donc peut-être un peu nous dire un peu, nous raconter à Valence, et puis s'il y a d'autres actions un peu de ce type, et voilà, en gros, en tout cas à Valence, quelles étaient vos attentes, et un peu raconter la journée, comment elle s'est déroulée, comment elle s'est passée, quoi.
Donc nous, on avait donc avec Atta, on avait organisé un bus qui partait de Bilbao pour aller jusqu'à Valence. On avait décidé ça suite en fait à ce que les familles nous racontaient, que voilà, les surveillants, ils leur rendaient la vie pas possible, par rapport à l'administration, l'éloignement et tout ça. Donc on avait décidé de faire d'aller jusqu'à là-bas, aussi pour montrer que voilà, ils sont pas tout seuls, montrer notre présence aussi auprès de ces surveillants qui posent problème, pour leur dire voilà, ils sont peut-être deux dedans, mais dehors il y a du monde qui bouge. Voilà, mettre un peu la pression aussi sur tous ces matons et l'administration pénitentiaire aussi, que bon, malgré l'éloignement de ça, voilà, on est prêt à faire des kilomètres aussi pour venir soutenir nos prisonniers.
Ok, du coup, vous étiez combien à peu près?
Je crois que nous, on était 40.
D'accord.
Oui, c'est ça, 40. 43 exactement.
Ouais. Et du coup, après le, ouais, voilà, la journée, le matin, enfin, comment...
Donc, on a fait... bon, on est arrivé devant la prison. On a... Il y a eu des fusées, tout ça, pour signaler notre présence. Il y a eu des slogans. On a fait 3 marches dans la journée. La première qui s'est déroulée plutôt devant la prison, enfin devant la porte d'entrée. Et après, en fait, on a su qu'ils étaient dans un bâtiment, mais qui était à l'opposé. Donc, on est parti 2 fois. Voilà. Eux-mêmes nous ont entendus, puisqu'ils nous ont répondu dans l'après-midi.
D'accord. Donc, ouais, vous avez pu avoir un contact, espèce de parleur sauvage, entre guillemets.
Ouais. Bien qu'ils étaient éloignés, mais on les entendait quand même.
Ouais, parce que moi j'ai une petite question pratique. Juste avant, la prison de Valence, elle était en plein cœur de la ville et c'était beaucoup plus facile de manifester autour, d'échanger avec les gens qui étaient à l'intérieur. Et souvent quand ils construisent des nouvelles prisons, ils les mettent loin de la ville et souvent les accès aux abords de la prison sont hyper compliqués, qui fait que par exemple c'est très compliqué d'aller manifester près des murs, d'être entendu à l'intérieur et de dialoguer. Donc là, c'était possible quand même.
Oui, au niveau, en fait, tout à fait derrière, parce qu'il y a un champ, et de là, on arrivait quand même à communiquer avec eux.
Ok.
Après, on avait un mégaphone aussi, donc ça joue beaucoup.
Mm-hmm.
Ouais.
Ouais.
Ok. Alors, eux, juste, ils ont une peine encore longue. Dans le cas des deux qui sont à Valence, il leur reste beaucoup de temps à faire. Et est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'ils sont par exemple conditionnables? Est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire des demandes de conditionnel, etc.
Alors, donc, on va dire, ils sont de nationalité espagnole sur le papier.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que pour les conditionnables. Pour demander, c'est impossible parce que en fait, de suite après, ils sont extradés vers l'Espagne.
D'accord.
En plus, ils ont des dossiers là-bas, donc les demandes de libération conditionnées sont impossibles.
D'accord. Et du coup, il leur reste, à faire en France, il leur reste.
Je sais pas trop.
Ouais.
Je sais que oui, il leur reste pas mal de temps.
Ouais.
Ouais.
D'accord. Parce que c'est une question que je me posais, si dans le cas de prisonniers basques, est-ce qu'ils leur demandaient pour une conditionnelle, de faire une espèce de repentance ou de remise en cause un peu de ce qu'ils ont pu faire ou penser, en tout cas.
Voilà. Ça arrivait avec des militants basques, on va dire de nationalité française. Il y a le cas plus particulier de Lorraine Chabéry, qui a fait déjà 2 demandes de liberté conditionnelle, et à chaque fois ça lui a été refusé parce que l'argument donc du procureur et du tribunal, c'était que justement elle n'avait pas renoncé à ses idées politiques, qu'elle demandait qu'elle se repentait pas de ce qu'elle avait fait ou demandait pardon.
D'accord.
Voilà.
D'accord, donc concrètement, ça se passe par signer un papier ou quelque chose comme ça, ou c'est très formel, non. Ou c'est informel, on va dire.
Informel, non, parce que dans la dernière décision, c'est carrément le juge le dit, que voilà, elle est, il n'y a pas de repentance et il n'y a rien, donc voilà.
D'accord. Ok. Alors après, peut-être. Peut-être passer justement au collectif, peut-être sortir un peu de Valence, mais de voir un peu ce qui peut-être voir plus général la situation en France, et puis peut-être après même en Espagne, hein, si tu peux en parler, la situation des prisonniers basques, et éventuellement vous. Alors il y a l'éloignement, le rapprochement familial, etc. Ce qui est l'eau d'ailleurs de beaucoup de prisonniers, hein, qui sont non basques et non politiques.
Ouais.
Mais, voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus sur un contexte plus général France-Espagne? Et puis présenter un peu le mouvement aussi.
Là, dans quelques jours, il y aura l'anniversaire en fait du cessez-le-feu de l'organisation ETA, qui a décidé donc d'une trêve.
Donc ça fait combien de temps ça, si tu peux nous rappeler?
Ça va faire 5 ans.
5 ans, c'était en 2011.
Ouais, c'est ça. suite à ça, donc, on va dire que l'Espagne et la France n'a pas bougé, mais resté assez lettre morte. Et la répression contre les détenus, par contre, elle s'est accentuée. Nous, on le voit comme, en fait, on voit les prisonniers comme un moyen de. C'est des otages, en fait. Ouais. Un moyen d'échange. Voilà. Donc, nous, à ATA, en fait, on s'est créé il y a 2 ans. On va dire que c'est une scission du mouvement pour les prisonniers officiels, entre guillemets. Pour nous, dans leurs revendications, ils font les leurs maintenant. Pour nous, c'est pas suffisant. Quoi. Eux, ils demandent le rapprochement des prisonniers et la fin de la dispersion. Ouais. Nous, le mouvement, en tant que révolutionnaire et on va dire militant depuis toujours, nous, on reste sur les bases qui ont toujours été celles du mouvement. C'est-à-dire revendiquer l'amnistie. On dit que s'il doit y avoir un processus de paix, il peut pas se faire sans amnistie de.
Sans libérer tout le monde.
Voilà.
Oui, d'accord.
Oui, d'une oppression et même au niveau du social et tout ça.
Oui, d'accord. Et juste parce que dans le cadre de ce processus de paix, donc j'imagine qu'il a été fait aussi avec des représentants officiels des États respectifs. L'État espagnol, non.
Non, du tout. Et ils ont refusé. En fait, il y a eu un peu le système, justement, c'est ce qui nous pose problème. C'est-à-dire qu'en 2009, cette gauche indépendantiste a signé ce qu'on appelle les accords Mitchell. C'est un Américain qui s'est occupé du processus de paix, entre guillemets, en Irlande et en Afrique du Sud. Et quand on se penche sur ces accords-là, en fait, les États ne sont pas obligés d'être à la table.
D'accord.
C'est une soumission totale de l'oppressé, en fait. Vraiment nous rendre plus bas que terre en acceptant tout ce qu'eux, ils demandent. Alors, c'est ce qui est fait depuis 5 ans. Et par contre, l'Espagne et la France, eux... Non, ils n'ont pas bougé d'un iota.
Donc du coup, il n'y avait pas de négociation possible, notamment sur la situation des prisonniers et l'éventuelle libération des prisonniers dans une espèce de tractation entre les mouvements basques au sens très large et les États. Quoi. Donc du coup,
La situation là, actuellement, elle est complètement bloquée. Non, il n'y a aucun changement ni... les pas ont été faits que ce soit par ETA ou par les mouvements indépendantistes. Des fois à tort ou à raison, bon, c'est chacun qui... Mais non, là on est dans une situation complètement bloquée. D'ailleurs, le collectif des familles des prisonniers a fait un communiqué il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il date il y a 2 mois ou comme ça, en parlant de la situation qui n'a jamais été aussi pire. Pour que ce soit pour les prisonniers qui sont en France ou en Espagne.
Parce que quand même, les prisonniers basques, ils ont quand même la réputation de s'organiser à l'intérieur et aussi du coup en lien avec l'extérieur et du coup d'arriver à faire un peu poids en fait face à l'administration pénitentiaire. Et là, tu es en train de dire, en fait, t'expliquais tout à l'heure qu'à Valence, en tout cas, la direction, elle veut pas les entendre. Et ça, c'est de plus en plus fréquent ou... Tu parles de dégradation justement de comment ça se passe à l'intérieur pour les Basques, ouais. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a un espèce de rapport de force qui est moins
Non, disons qu'il y a un collectif des prisonniers, mais dû à la dispersion et tout ça, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à fonctionner ou à communiquer entre eux. Pas notre collectif, mais l'officiel, entre guillemets, est rentré dans un rapport, on va dire, humanitaire. Toute la question, en fait, politique et tout ça a été écartée. Et là, ils sont en train de faire du cas par cas, en fait. Donc, C'est un peu compliqué à gérer.
Moi, c'était plus dans la négociation, en fait, directe avec l'administration pénitentiaire, ma question. Est-ce qu'il y a eu un moment où l'administration pénitentiaire pouvait peut-être plus écouter certaines demandes, et aujourd'hui, vous pouvez observer que c'est moins le cas, sachant que vraiment, enfin, l'organisation des bases, il y avait un peu un côté, même du côté des familles, hein, en allant au parloir, tu te rendais compte quand les familles, elles sont un peu admiratives de ce qui se passe, en fait, quoi. Mais ouais. Là, est-ce que dans le rapport de force face à l'administration pénitentiaire, est-ce qu'il est moins en votre faveur, ou enfin, est-ce que vous pouvez observer ça ?
Non, du tout. Il y a eu des réunions à l'époque avec la ministre Taubira, qui avait promis de faire des pas vers le rapprochement de quelques prisonniers, c'est-à-dire vers chez nous. Donc les prisons les plus près, c'est Lannemezan et Mont-de-Marsan. Mmh. Mais suite au changement... Enfin, déjà, il n'y avait eu aucun changement, même après ses promesses. Mmh. Et là, depuis qu'il y a le valet de Valls qui est au ministère de la Justice, là, c'est carrément bloqué. Il n'y a même plus de communication, il n'y a plus rien.
Mmh. Bah, de toute façon, là, je pense que le truc qui est clair, c'est que, sachant que, étant donné qu'ils ont quand même conscience de ce rapport de force qu'il pourrait y avoir si on mettait plein de basques dans une même prison... Pour eux, l'éloignement, c'est clairement une stratégie. Si je me trompe pas, il y a à peu près 80... je crois que j'ai cru lire ça. Il y a 80 prisonniers des mouvements basques qui sont en prison en France, répartis dans 24 prisons. Donc c'est clairement une méthode pour diviser, pour éviter ce rapport de force. Parce que si on met tous les 80 prisonniers à Lannemezan, je pense qu'ils seraient pas la direction de Lannemezan, elle serait pas très fan,
oui,
quoi.
Oui. Ouais, de casser, en fait, d'essayer de casser ce collectif-là.
Mmh. Tu vois que déjà qu'à deux à Valence, ils arrivent à bloquer une promenade, à se mettre au mitard, à faire la grève de la communication, etc. C'est quand même pas rare qu'il y ait quand même, même s'ils sont qu'une poignée dans les prisons, en tout cas qu'ils se laissent pas faire et qu'ils agissent concrètement et qu'ils s'organisent. Du coup, voilà, on imagine que pour eux, la dispersion, moins ils seront nombreux, mieux c'est, quoi.
En fait, c'est une politique qui a été menée depuis le début des années 90 par l'Espagne, et la France a suivi, en fait, dans cette politique-là de dispersion.
Oui.
C'est aussi pour casser ce collectif-là.
Après, du coup, c'est le même principe de dispersion quand il y a une mutinerie, quelle qu'elle soit, quand il y a des prisonniers qui se révoltent à l'intérieur, il y a toujours un moment où, du coup, ils vont envoyer les gens à droite à gauche, en fait. C'est toujours l'administration pénitentiaire, elle casse toujours à un moment des espèces de... pas de noyau, mais de gens qui s'organisent, en fait, et les éloignent, que ce soit pour les Basques ou pour les autres.
Oui.
Et alors, ouais, peut-être une dernière question pour conclure, à moins qu'il y en ait d'autres. What? Nader, tu voulais dire un truc?
Peut-être poser la question à savoir si de pousser les personnes dans la dispersion, c'est pas aussi vouloir réécrire l'histoire et faire en sorte qu'il y ait une forme d'oubli sur les différentes victimes, les 120 000 Basques disparus durant le conflit, ou de voir un peu ce qui n'a pas été osé écrit dans les livres et dans la mémoire collective. Est-ce que c'est un peu dans ce sens aussi ?
Oui, parce que de toute façon, le caractère politique de la lutte, que ce soit en France ou en Espagne, il n'est pas du tout reconnu. Donc, mais pourtant, les prisonniers ont des conditions... un peu différente de celle d'un prisonnier, on va dire, de droit commun. Je peux en parler parce que je l'ai subi aussi, donc en fait on est considéré, oui, comme en fait un prisonnier normal, mais avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire par rapport à notre engagement politique.
Toi, tu pourrais en parler un peu plus, vu que tu as dit que tu voulais bien en parler, de cette différence-là que toi tu fais entre les prisonniers de droit commun, on va dire, et la situation plus particulière, là en l'occurrence, des prisonniers basques. Ce que tu vois concrètement comme différence.
Par exemple, moi j'étais incarcéré pendant 4 ans à la prison de Villepinte, donc dans le 93e. Et par rapport à d'autres détenus... nous, on avait droit qu'à 3 parloirs prolongés, c'est-à-dire de 1 heure par mois. Au niveau activité, on avait droit qu'à une activité par semaine. Après, par exemple, pour se déplacer entre les bâtiments ou pour nous, ce qu'on disait tout à l'heure, on était escortés. C'est vraiment, on est tout le temps surveillés en fait. Après nous, on était 5 à l'époque. Le rapport avec les matons, il était plutôt. Bon, ils savaient que voilà, on était des militants politiques, hein, que tout, si nous, entre guillemets, ils ne faisaient pas chier, tout se passait bien. Mais par contre, s'il y avait le moins de problèmes avec un seul, c'était les 5 avec qui on fonctionnait en collectif.
Et du coup, c'était un règlement spécial, officieux et spécial, du coup, par rapport aux activités, etc.
Oui, même en promenade, ils doivent toujours le faire, c'est-à-dire un calepin avec nos photos, et ils notent tout ce qu'on fait, avec qui on discute, et, voilà.
Ouais. Une surveillance accrue, quoi.
Ouais.
Ça, c'était typiquement parce que vous étiez étiqueté prisonnier basque, c'était pas parce que vous étiez
DPS
ou vous aviez une fiche particulière, juste prisonnier politique. Enfin, c'était vraiment le fait d'être basque et d'appartenir à un mouvement, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Alors peut-être juste pour conclure, tout à l'heure tu disais en tant que révolutionnaire, après c'est bon, on quitte un peu la situation particulière des Basques, mais peut-être vous, est-ce que vous avez une position par rapport à la prison et la place que la prison a dans ce monde, au-delà du conflit entre les Basques et l'État français espagnol?
Moi, à la base, je suis un militant anticarcéral, donc je suis... je pense pas que la prison soit la solution. Ce qu'ils essayent de nous faire croire, d'ailleurs, dans l'actualité, ils vont dans le tout répressif, même pour les petites peines, et avec l'ouverture de nouvelles prisons et tout ça. Non, moi je suis militant anticarcéral, internationaliste, donc c'est en fait je suis plus particulièrement dans le cas basque, mais par exemple là on va participer à la manifestation de soutien à Georges Abdallah. On a fait aussi des choses par rapport aux prisonniers kurdes. Pour les Corses, c'est un peu particulier. Voilà, on n'a pas de besoin de m'expliquer. Sinon, voilà, même nous, à l'époque...
Les Corses ont quand même les revendications aussi sur les rapprochements familiaux. Parce que c'est quand même très, très compliqué aussi pour eux.
Pour l'avoir vécu avec eux, c'est-à-dire que nous, quand on faisait des mouvements par rapport à ça, ils ne participaient pas, donc un peu particulier, ouais.
Mais bon, en tout cas, c'est un fait que quand t'es sur, t'as une Méditerranée à la fin, tu vois, t'as un bout de Méditerranée à traverser, voilà, tu fais pas un parloir toutes les semaines, quoi.
Ouais. C'est un peu particulier, mais à la base, nous, on est militants anticarcéraux contre toutes les prisons.
Voilà. Ok. Très bien, je sais pas si tu as quelqu'un a une autre question, quelque chose à rajouter, si toi Joël tu veux rajouter quelque chose. Enfin, je sais pas.
Moi je suis très content qu'on parle de ça, on va dire, dans l'État français, parce que c'est vrai que la question basque ou même est assez dure à être diffusée, on va dire.
Ouais.
Ouais.
Tu veux dire que par rapport à ce qui se passe en Espagne?
Oui, à l'Espagne, mais même sur la lutte. Passe ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal sur l'État français. Un peu plus en Espagne, il y a beaucoup plus de... C'est-à-dire aussi qu'on a des Catalans, il y a des Galiciens, il y a des comités sur Madrid et tout ça, contre les prisons, ou que ce soit même antifascistes, anarchistes, communistes, c'est ça qui nous soutiennent, qui diffusent l'information. Mais en France, c'est vrai que c'est très dur à faire passer.
Ok. Très bien. Alors,
donc... peut-être en conclusion, peux-tu nous parler du 26 novembre du rassemblement qui se tient à Bilbao?
La manifestation, ouais.
Oui. La manifestation qui est logiquement un appel national.
Oui, c'est ça.
Et que là-dessus, y a une publication qui est faite sur Internet et que tout le monde est invité, car en fin de compte, on pourrait dire que c'est une forme d'internationalisation de la lutte basque. C'est montrer aux différents peuples et personnes que ce n'est pas qu'entre vous que vous gérez le problème basque, mais que tout le monde est amené, appelé ou invité à porter le drapeau.
Ah, oui, c'est sûr que c'est ça. Plus on est dedans nombreux, plus on... Parce que nous, on veut recréer un rapport de force entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire remettre nos revendications en avant aussi, et remettre les gens aussi dans la rue, ce qui a été un peu abandonné depuis 5 ans. Voilà.
Ok. Eh ben, merci beaucoup à toi.
Merci.
Et voilà, t'hésite pas, voilà, s'il se passe des choses en particulier, t'hésite pas à nous rappeler et revenir à cette antenne, du coup.
D'accord. Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup.
Ciao.
Merci beaucoup.
Et à très vite. Et courage pour la suite.
Adieu.
Allez, ciao. Et du coup, on va passer un petit morceau.
Peu de musique. Ouais.
Voilà, c'est 7 morceaux sur le Pays Basque, justement.
J'ai plus de 4000 ans, telle était mon époque. Et ma langue n'a de lien avec aucune autre. 1934, année de ma naissance. Mon histoire s'en relate mais n'est pas récente. 2 ans plus tard ici, c'est l'indépendance. Mais c'est la guerre civile qui berce notre enfance. La résistance très tôt nous l'avons pratiquée. Les promesses de Franco de nous éradiquer. Les nazis du Reich et le Duce s'en mêlent. Les fascistes ont des troupes et du matériel. Du ciel la mort tombe à la verticale. L'aviation allemande bombarde Guernica. J'ai 5 ans, Franco on remporte la bataille. Rapidement le sang coule et la terreur s'installe. Je suis basque et sage que ma culture j'y tiens. Ma province combattait pour les républicains. On interdit ma langue, on nous persécute. On nous envoie dans les camps, on nous exécute. Ceux qui luttent, qui risquent d'y laisser leur peau. Ceux qui ont perdu leur vie à porter ce drapeau. On torture, on mutile ceux qui veulent exister. Nous sommes 150 000 à nous exiler. En France on s'installe, on arrive en force. On établit nos bases, on ne fait pas de pause. Bataillon Guernica, la guérilla s'impose comme une délivrance quand la Wehrmacht explose. Un peu de paix, mais le basque lui se porte mal. Bilbao 47, la grève est générale. La répression s'abat, celle de la dictature. Et 15 000 ouvriers sont livrés en pâture. Alors dans les maquis, on passe à l'offensive. Choisir entre l'Espagne et les indépendantistes. On déboule des montagnes comme une avalanche. Pour en finir avec la terreur blanche de la phalange. 1959, 25 ans déjà, je rejoins Euskadita, Eskatasuna. Lâcher le serpent, la force et la sagesse. Avec les habitants, on crée nos bases secrètes. Dans les hauteurs, on s'entraîne avec rigueur. L'impôt révolutionnaire pour les exploiteurs. On l'impose, sale porc, tu paies ou tu meurs. Les gros entrepreneurs sont bientôt morts de peur. On est marxiste, capitaliste dans la ligne de mire. Cagouler le poing levé dans nos gants de cuir. Les braquages sont là pour récolter l'argent. Pour l'achat des explosifs et de l'armement. 1968, on nous en fait baver. Le chef de leur police finit sur le pavé. 7 balles dans le corps, dans ton sonnaire notoire. Mais ce n'est pas notre principal fait de gloire. Madrid en 73, Carrero Blanco. On sectionne le bras droit du général Franco. Dans leur dictature, notre attentat fait tâche. Une voiture sur un bâtiment de 5 étages. Nous serons la charnière de la porte ouvrière. La première étincelle dans une poudrière. Les grèves de la faim, les années de tôle. L'autonomie totale, n'inversons pas les rôles. Ils nous emprisonnent, imposent la loi martiale. 3000 basques et le nettoyage est radical. Des morceaux de mon âme, j'en ai laissé beaucoup. J'en ai perdu mon calme en rendant coup pour coup. Besoin d'armes, soutenu par l'Algérie, la Russie, la Libye, la Tchécoslovaquie. Bien sûr Cuba aussi, ravitaillé en silence, rapidement connecté à la lutte en Irlande. Notre action, notre détermination, le rap de patron pour nos revendications. La police, fer de lance de la répression, la garde écrase toute forme de manifestation. Terroriste ainsi, vous nous appelez, lutte armée, on abat vos gardiens de la paix. 75, Franco meurt à 82 ans, aux obsèques, les gens pleurent, les mains pleines de sang. On ira jusqu'au bout, le combat continue, 78, Eribata, Shuna se constitue. Un hexagone, Ika, tagué sur les baraques, ceux du nord, le combat dit par Tarak. Passer leurs frontières, nous sommes en base arrière, alors le gal nous chasse dans notre sanctuaire. Mais qui fournit les balles dans le barillet, des barbouzes françaises, des mafieux marseillais. Les RG, sous Mitterrand sont impliqués, comme un puzzle où chaque pièce entre elles est imbriquée. J'ai fait le choix des armes, je n'en vois pas le bout, dans ces rues où le gal se cache un peu partout. Ce soir-là, une moto double ma Renault 5, il est trop tard, le pilote me braque avec un flingue. 1985, pour moi tout s'arrête, à Bayonne, abattu d'une balle dans la tête.
Les hommes du GAL répliquent à chaque attentat de CA par des actions de représailles sur le sol français. La riposte est immédiate et systématique. Déjà, une quinzaine de morts pour ETA du côté français, rien que pour cette année 1985. Jamais le Sud-Ouest n'avait connu un tel niveau de violence. Devant ce cycle infernal, il semble qu'on doit parler de libanisation du pays basque français.
Coup de filet de la police à Bayonne. Ce matin, 6 membres présumés du GAL ont été arrêtés. Contre toute attente, les suspects ne sont pas espagnols mais français. Cette nouvelle découverte ouvre les pistes. On s'interroge qui se cache vraiment derrière le GAL.
L'organisation révolutionnaire socialiste basque de libération nationale, Euskalitas Katasuna, ETA, déclare que tant que l'Espagne ne reconnaîtra pas l'indépendance du pays basque, et qu'elle enverra les tueurs du GAL sur le sol français pour assassiner nos militants, ETA continuera la lutte armée et les assassinats politiques. Le GAL, groupe antiterroriste de libération, prouve que l'Espagne reste un état oppresseur. En ne réagissant pas, la France sera complice de l'Espagne.
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 et Radio Canu 102.2. Donc on va passer à la suite.
La suite.
On était en plein débat sur la suite.
Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a le choix un peu. Est-ce qu'on parlerait pas du rassemblement pour Aurore?
Ouais, alors moi j'aurais bien parlé de la mutinerie d'abord. Vu qu'on l'a évoqué dans le l'interview, mais sans trop non plus en parler. Parce que en fait, donc, dans l'interview, on en a parlé vite fait. En fait, les deux, donc Aletchou et Ibon, visiblement, ils sont au quartier Maison Centrale. Donc comme on sait, mais sans avoir beaucoup d'éléments, et c'est bien dommage, c'est des quartiers ultra sécuritaires où sont enfermés des gens qui ont des très longues peines. Et en gros, c'est une expérimentation de gestion de la détention qui est en train de se répandre en France et dont on a déjà pas mal parlé et qui fait vraiment flipper. Parce qu'en gros, les maisons centrales, donc qui sont les rares prisons en France où il y a des très longues peines, et ben, pour les gérer au mieux, qu'est-ce que fait l'administration pénitentiaire? Qu'est-ce qu'elle faisait en tout cas? Elle faisait des endroits où il y avait un peu plus de possibilités de vivre et d'avoir des activités qu'en maison d'arrêt ou en centre de détention. Donc les gens peuvent se promener dans les maisons centrales, peuvent avoir des activités, etc. Dans les quartiers maisons centraux, apparemment, c'est ultra sécuritaire et il y a très très peu de sorties, très très peu d'accès aux activités. Et les détenus sont hyper, hyper surveillés dans des... Imaginez, ils sont dans des petites boîtes hyper aseptisées, quoi. Bon, ben, le quartier Maison Centrale de Valence, ça a pété. C'était quand? Il y a 2 semaines? 1 semaine?
Ouais, je dirais une semaine, ouais.
2-3 jours après le rassemblement qu'il y a eu pour les Basques devant, ouais. Dedans, ça a pété. Donc, les Basques, ce qu'eux, ils disent, c'est qu'ils étaient au mitard, donc de toute façon, ils n'ont pas participé à ça. Et bah, en fait, les news qu'on a, c'est que les news des grands médias, donc on peut les résumer vite fait, quoi, mais en sachant bien que les grands médias, la plupart du temps, bon là, il y a eu une petite exception, ils ont fait un effort, mais la plupart du temps, les grands médias, ils vont demander leur avis aux matons, aux syndicats de matons. Et les syndicats de matons vont dire « les détenus sont très très dangereux, l'administration pénitentiaire ne nous soutient pas face à eux et nous avons besoin de plus de moyens sécuritaires, et plus de moyens humains et tatata ». Ils disent toujours ça, on ne sait jamais ce qui se passe vraiment et quand on sait ce qui se passe vraiment, on se rend bien souvent compte qu'ils déforment beaucoup la réalité. Bon, ça on le répète à longueur d'émission. Donc voilà, là en gros l'histoire pour rappeler ce qu'on a vraiment trouvé dans les médias, c'est que deux ou trois prisonniers auraient dérobé les clés d'un gardien et auraient tenté de mettre le feu à des matelas. Et voilà, et qu'au bout de quelques heures, la situation aurait été apaisée. Alors, ils disent par qui ? L'incident a été confiné, entre guillemets, selon le ministère, après l'arrivée des Eris. Donc ça, en gros, ça veut dire que les prisonniers qui se sont révoltés se sont fait tabasser, ont eu des sanctions disciplinaires très dures et auront des procès donc à suivre. Et à savoir que là, dans ce cas-là, ce qui est un peu aussi intéressant à noter, c'est que les médias disent que le meneur, parce qu'il faut toujours qu'il désigne des meneurs, serait Omar Topelhatch, donc un homme, selon eux, désigné comme très dangereux. Bah, on va dire plutôt que nous, pour savoir un peu qui c'est, un homme qui doit être plutôt désespéré, parce qu'il a une très longue peine à faire, parce qu'il a déjà essayé de s'évader de prison en 2009 et que pour ça, il a pris une longue peine supplémentaire parce que à son procès pour l'évasion, donc il s'était évadé de Moulins avec Christophe Kider, il avait cessé de raconter comment la prison ne sert à rien, ses peines super longues ne servent à rien, à part à rendre les gens complètement désespérés. Effectivement, quand on va les mettre en plus dans des tombeaux, et ben à un moment, ils s'énervent. Et là, le journal, alors je ne sais plus lequel, France Bleu, ils ont fait un petit effort, ils ont discuté avec la compagne de Omar. Donc, bah au moins, ils ont donné un peu une autre version dans la presse. Et sa compagne, elle a dit qu'elle s'était vue refuser l'accès au parloir. Et que c'est ça, en fait, qui avait mis Omar très en colère. Et c'est probablement une des raisons, ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour que bah, voilà, ça déclenche une mutinerie. Mais il doit bien en avoir d'autres parce que les gens, en fait, dans les prisons, en particulier ce type de prison, ils prennent pas le risque de faire une mutinerie juste parce que l'envie leur est passée le matin comme une envie de pisser. Ils savent qu'ils s'exposent à des très gros risques. Voilà, j'ai été très bavarde, j'arrête. Sur cette mutinerie. Et à savoir quand même que, bon, alors c'est aussi, c'est peut-être un peu un effet des médias, mais pas que. Là, en ce moment, quand même, on a pas mal d'échos de mouvements plus ou moins collectifs dans diverses prisons. Et il y a eu aussi un truc qui s'est passé à la prison de Condé-sur-Sarthe. Donc, alors là, prison encore plus au top de l'ultra-sécuritaire et du tombeau. Et bon, bah, en fait, là, il y a pas mal d'incidents qui se passent là-bas, qui sont relatés dans la presse. Cet endroit est vraiment un endroit complètement invivable. Et évidemment, on y met les gens les plus désespérés, avec les plus longues peines et dans des conditions ultra sécuritaires. Donc il y a des incidents. Et bah, les syndicats de surveillants en profitent pour dire il y a une flambée de violence dans les prisons, l'État ne nous écoute pas, l'administration ne nous soutient pas, donc ils vont demander de plus en plus de moyens jusqu'à demander à être armés. Parce qu'en fait, ils demandent à Condé des pistolets à choc électrique, là. Bah en fait, c'est des armes. Hein. Ils demandent à être armés, tout simplement. Et voilà.
On reste à Valence.
Ah ouais, encore. Alors, qui c'est qui veut le lire? Tiens.
Allez.
Ce serait. Voilà. Allez. Donc, à Valence. Oui, bon.
Une autre histoire.
Ouais, une autre histoire. Bah, histoire
ouais, donc, Aurore, on l'avait déjà eu plusieurs fois au téléphone ouais. À l'antenne, qui après sa sortie de prison. Donc elle était...
Elle a été détenue en fait pendant quelques mois à la maison d'arrêt de Valence, dans laquelle les matons, l'administration pénitentiaire et les surveillants lui ont créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Elle avait une peine pas très très longue, c'était quelques mois, mais sauf qu'elle s'est fait défoncer à l'intérieur.
Et à Corba après.
Et à Corba aussi. Et du coup, voilà. Et en sortant, oui.
Non, et du coup c'était la galère en fait, en continuant, c'était la galère à la sortie avec le service de probation. Puis,
peut-être rappeler pourquoi aussi, c'est parce que en sortant de prison, déjà elle a beaucoup témoigné sur son histoire, donc ce qui s'était passé. Déjà son interpellation était complètement folle par les gendarmes, si je me trompe pas. Ensuite, elle a été maltraitée par les surveillants à Valence et à Corba. Oui. Donc en sortant de prison, elle a témoigné notamment sur l'antenne de l'Envolée. Nous, elle est venue parler aussi. On l'a déjà interviewé ici, où elle a raconté son histoire. Et en plus, c'est quelqu'un qui organisait ensuite des rassemblements devant, qui était présente devant la prison à Valence.
Et du coup, ça a plu à personne qu'elle ouvre sa gueule pour raconter tout ça. Donc voilà. Et du coup, là, elle a des problèmes elle avait des tiges à faire. Donc c'est ce que va raconter le tract que je vais vous lire. Et du coup, elle risque d'être incarcérée vu que sa SPIP ne l'a pas autorisée à faire les tiges alors même qu'elle avait trouvé des structures d'accueil. Donc voilà. En 2014, Aurore est condamnée à 8 mois de prison pour une récidive de conduite sans permis. Incarcérée à la maison d'arrêt de Valence, elle y subit des violences de la part de certains surveillants. De l'intérieur, elle décide de porter plainte contre eux et de dénoncer leurs agissements. Mais cette plainte est aujourd'hui classée sans suite. À sa sortie, elle participe à des rassemblements devant la maison d'arrêt de Valence, ce qui lui vaut un rappel à la loi, des menaces et des pressions de la part de sa conseillère du SPIP, Nathalie Perrin, service pénitentiaire d'insertion de probation, rapport à son contrôle judiciaire. En juin dernier, Aurore est condamnée pour un autre délit antérieur à son enfermement. Elle écope de 105 heures de tige, travail d'intérêt général, affaire dans un délai de 12 mois. En septembre, elle prend contact avec la conseillère SPIP chargée de la mise en place de son tige. Mais au goût de Madame Perrin, Aurore n'est pas assez disponible, alors que ça n'empêche pas l'exécution de sa peine. Et surtout, son attitude n'est pas docile et ça lui déplaît fortement. Elle rédige un rapport négatif à son sujet, puis refuse de la rencontrer à nouveau. Durant l'hiver, la juge d'application des peines, Frédéric Dumas, couvre le comportement de sa subalterne et menace Aurore de l'incarcérer, en révoquant le sursis correspondant à la non-exécution de la peine, soit 6 mois de prison, au prétexte qu'elle ferait preuve de mauvaise volonté. Depuis lors, Aurore est affectée à d'innombrables démarches, a effectué d'innombrables démarches, cherché elle-même des structures qui acceptent de la prendre en tige, l'atteste par écrit, elle a interpellé aussi la direction du SPIP, écrit plusieurs courriers à son juge pour lui expliquer la situation, demandé à changer de conseillère SPIP, puisque Madame Perrin refuse de la laisser faire son tige dans les structures qui acceptent de la prendre, et demandé au juge de convertir les heures de tige en jour amende, interpeller des médiateurs afin que cette situation trouve une issue. Mais le temps passe et elle n'a aucune réponse de la part du juge Dumas. Celui-ci attendait-il que le délai soit écoulé pour lui reprocher de ne pas avoir exécuté sa peine et de tenter de l'incarcérer? Pour cela, Aurore a l'obligation de se rendre à un débat contradictoire au palais de justice de Valence ce 13 octobre, le juge voulant mettre à exécution la peine de 6 mois d'emprisonnement. Donc voilà, et le tract dit aussi, on utilise malheureusement le même mot, justice, pour parler d'une valeur idéaliste pour laquelle on se bat parfois, et cette institution qui a pour but principal d'apprendre la soumission et de briser celles et ceux qui passent devant des magistrats. Le juge Dumas fera, comme depuis des mois à son sujet et des années au sujet de centaines d'autres personnes, ce qu'il veut de la liberté et de la vie d'Aurore. Mais cela ne se fera pas dans l'indifférence générale. Donc voilà.
L'idée, c'est que donc elle va passer le jeudi 13 devant le juge d'application des peines de Valence à 9h du matin. Et l'idée, c'est que il y a un petit peu du monde, au cas où ça vous intéresse, qu'il y a un petit peu du monde devant pour qu'elle se retrouve pas toute seule face à eux. Voilà, et puis on n'aura pas le temps. On avait reçu une lettre de prisonnière basque de Poitiers-Vivonne qui racontait une petite lutte, selon elle petite, et en fait plutôt grande malgré tout, puisque toutes les luttes sont grandes en prison, au sujet de la dispersion justement.
de l'éloignement familial et de l'éloignement des amoureux, notamment, bah, on la lira une autre fois, ou bien on la publiera dans l'envolée ou dans le numéro zéro. Voilà.
Tout à fait.
Et donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder. Donc dans la grande liste des choses, au moins c'est bien, on a du contenu pour toutes les émissions qui viennent.
Tout à fait.
En attendant...
Chaque fois, on vous promet qu'on garde tel sujet pour la prochaine fois.
Mais c'est une technique pour avoir de l'audience, en fait.
Non, on ne le fait pas tout le temps, par contre.
On ne le fait pas souvent.
En attendant la prochaine émission, donc il y a des rencarts à Saint-Étienne. Et, ouais, donc à Valence, on vient d'en parler. Aussi à Saint-Étienne. Ça commence demain soir à Gueule Noire. Il y a un concert de soutien aux personnes qui ont été qui ont eu des soucis pendant le mouvement social, donc aux personnes qui ont eu des procès, des poursuites judiciaires, etc. Et donc c'est à partir de 18h, il me semble.
De 18h à 2h du matin, c'est que des que du rap.
Wow, c'est
fou. Oui, c'est
ouais, c'est large.
C'est les
24 heures du rap.
Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a espoir de Saint-Étienne, il y a Mélane de Toulouse, et ainsi que, je vais vous dire,
roulement de tambour.
Voilà,
suspense quoi.
Le traitement de Montpellier et d'autres groupes dont j'ai oublié le nom. Voilà.
Et donc voilà, donc on soutient aux personnes, entre autres, qu'on avait eu à la dernière émission, qu'on avait interviewé. Les quelques personnes qui ont pris quand même des bonnes grosses peines bien lourdes et bien chiantes, souvent pour pas grand chose, donc juste une histoire de plus à rajouter à l'édifice de la merde
ambiante.
Mais bon, tout ça, ça n'empêche pas de faire des choses, de s'organiser, de créer des choses, etc.
Et de danser,
et de soutenir et de participer au soutien. Et aussi donc un autre rencard à proposer vers la fin du mois d'octobre, toujours à Saint-Étienne, donc le week-end des 22 et 23 octobre, avec tout un week-end de discussion et d'action autour de la question de l'armement policier et des violences policières. Et de l'industrie qui va avec, notamment avec cette usine qu'on a à Saint-Étienne de fabrication d'armes de chasse et aussi d'armes de chasse aux gens aussi. Donc le flashball.
Qui a inventé le flashball.
Donc l'usine qui a inventé le flashball. Donc c'est les 22 et 23 octobre. Le 22, il y a un carnaval prévu en centre-ville. Le soir même, donc l'après-midi, le soir il y a un concert, et le dimanche tout au long de la journée il y a toute une série de conférences et de discussions qui sont prévues.
Une espèce de forum.
C'est un forum, tout à fait. Un forum pour parler des questions d'armement de la police et de violence policière, avec des intervenants.
Plein de choses.
Donc je sais pas, est-ce que t'as par exemple le programme sous les yeux que tu voudrais nous en lire ?
Non, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est de tête en gros. Il y aura Mathieu Rigoust qui a pas mal écrit sur la domination policière. Il y aura un collectif Désarmons-les, donc qui parle de toutes les nouvelles techniques et les nouvelles armes de la police. Il y aura une équipe de street medic de Paris, si je me trompe pas, qui sera là pour parler. C'est des gens qui soignent les gens qui ont subi des violences policières en manifestation. Il y aura une conférence sur les pirates somaliens, si je me trompe pas, qui sont en prison pour certains en France. Il y aura.
Mais ça va être déjà pas mal.
Ouais, enfin il y aura.
Donc il y en aura d'autres.
On en dira plus en fait la prochaine émission, je pense, parce que ce sera la veille. Et là, peut-être qu'on en dira un peu plus.
Et en attendant, de toute façon, il y a un blog sur lequel le programme est consultable, donc avec toutes les informations techniques pour s'informer un peu plus clairement sur le lien de ce blog, c'est
blogspot.org.
Et
on va le redire.
Il y a des
désarmons-la-police.noblogs.org.
Et il y a des infos sinon sur le numéro 0 et sur Rebellion, si je me trompe pas.
Absolument.
C'est rebellion.internet.
Voilà, c'est des sites internet. Voilà, donc on va se quitter avec une petite musique. Nous, on se revoit dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est la petite cuillère.
Ouais.
Voilà.
Et peut-être on rappelle le moyen de nous contacter.
Exactement.
Je vous en prie. Je vous écoute.
Ah bon, voilà. Les moyens de nous contacter, ce serait premièrement une adresse email. Donc, émission papillon, tout attaché, sans accent, @riseup.net. Émission papillon, @riseup.net. RISEUP.net.
Vous nous le dites si vous en avez marre quand on appelle.
Ben non, je vous avais qu'à nous
sinon,
écrire.
Sinon, il y a aussi une adresse postale qui est, je m'en rappelle jamais.
Alors, papillon, chez CSA, prends note, 16 rue du Mont.
16, en fait, c'est le 16.
Ouais, 16 rue 16. Du plus loin Mont.
MONT
42100 Saint-Étienne. Et sinon, bah pareil, sur le site internet le numéro 0, vous pouvez nous trouver. Et donc là, je vais présenter très vite fait parce qu'on va être super à la bourre. La chanson pour dire au revoir, c'est une chanson de comment il s'appelle ? Des Cabales.
Des de Cabales, qui jouait dans le groupe Cabales avant, voilà. Qui maintenant c'est des...
Et en fait, elle tombe à point nommé parce que il y a quelques jours, je sais pas si vous écoutez les grands médias, mais tournez en boucle une info sur un mec qui s'est fait sévèrement molester par des policiers.
Insulté.
Parce que, insulté, menacé de viol,
menacé,
oui.
Ouais.
Parce que il avait filmé l'arrestation très violente d'une femme
Dans le métro.
Dans le métro, voilà. Arrestation visiblement plutôt raciste, on peut le dire. Voilà. Et en fait, malheureusement, c'est assez banal ce genre d'histoire. Mais ce qui est moins banal, c'est que le mec, il est prof de fac à la Sorbonne ou je sais pas où. Donc lui, il a accès aux grands médias, aux réseaux, etc. Donc son histoire a fait pas mal de bruit. Et donc elle est publiée, par exemple, sur Mediapart. Et sur Mediapart, il dit à la fin que son histoire lui a fait penser à cette histoire que raconte Monsieur D. de Cabal dans sa chanson qu'on va écouter pour se quitter.
Ouais, et force et courage à tout le monde, à
faites
l'intérieur
gaffe à vous.
Et à l'extérieur aussi.
Ciao, la semaine prochaine, la petite cuillère.
Ciao.
Salut.
Lettre ouverte à Monsieur Bernard Cazeneuve et Madame Christiane Taubira. 1. Madame, Monsieur, si je prends le temps de vous écrire aujourd'hui, c'est pour tenter de vous livrer un sentiment qui est non seulement le mien, mais également celui d'un certain nombre de citoyens de ce pays. Je vous écris aujourd'hui parce que ce matin, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à me dire que le temps employé par ce policier à 9h40 au métro à Bobigny à l'encontre de cet homme qu'il contrôlait était normal et approprié. Je n'ai pas réussi à trouver cela normal dans le cadre du métier exercé par ces trois policiers. Je n'ai pas réussi, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait, je venais d'arriver, je ne connaissais pas la situation. Je n'ai pas réussi à ne pas m'inquiéter de l'évolution de cette même situation. Quand la femme du groupe de policiers s'est adressée à un homme qui regardait la scène comme s'il était un moins que rien, comme s'il était une bête inhumaine, comme s'il devait ignorer ce qui se déroulait sous nos yeux et qui immanquablement attirait nos regards anxieux. Je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi, et l'homme non plus. Quand moins de 2 minutes plus tard, ce monsieur se fait plaquer violemment contre le mur. Je n'ai pas réussi à comprendre, je n'ai pas réussi à trouver cela normal dans le cadre inscrit par la loi. Cette loi que nous devons tous respecter, tous, hein, tout ça, tout ça. Je n'ai pas réussi à croire que cet homme entravait les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Je n'ai pas réussi à faire comme si cet étalage de violence était normal et acceptable, non. Je n'ai pas réussi, alors que faire? Tourner les talons? Non. Reprendre sa route? Non. Ignorer ce qui se passe sous nos yeux? Non. Alors que faire? Alors que faire? 1. Je n'ai pas réussi à me dire que ma vigilance quotidienne ne concernait pas aussi les forces de l'ordre. Je n'ai pas réussi à me dire qu'ils étaient des êtres humains infaillibles et qu'il ne fallait pas être vigilant à leur endroit aussi. J'ai essayé d'ignorer ce spectacle si triste. J'ai essayé durant une poignée de secondes et je n'ai pas réussi non plus, non. Je n'ai pas réussi à ne pas m'adresser à cette femme, agent de police, qui était un peu à l'écart. Je lui ai dit le plus calmement du monde que tout cela me semblait un peu excessif. Les êtres humains, quand ils sont mis face à face, dans certaines situations, se retrouvent confrontés à leurs propres limites. La policière détentrice de la force et de l'ordre, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à me répondre comme si j'étais un être humain, doté de yeux pour voir et d'une conscience et d'une certaine idée de la dignité. Elle n'a pas réussi à ne pas me considérer comme quelque chose que je ne pourrais décrire. Une espèce de masse informe, sans contour ni volonté. Je veux dire sans volonté propre, sans réflexion, sans âme peut-être, juste un être déjà programmé. Violence verbale, encore. Violence verbale, encore. Ensuite, tout est allé très vite. Je n'ai pas réussi à leur dire que je les filmais par mesure de précaution, parce que j'ai eu peur, très peur même, que les choses dégénèrent pour le monsieur. plaqué au mur, je n'ai pas réussi à leur dire non plus que ma mémoire était pleine et que je n'avais quasiment rien pu enregistrer. Je n'ai pas réussi à comprendre quand le policier, celui qui plaque les hommes contre le mur, m'a demandé de présenter mes papiers en refusant de m'indiquer le motif alors que je le lui ai demandé. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi j'étais poussé à distance de mon sac, resté au sol. Je n'ai pas réussi à me faire comprendre quand, après avoir enfin entendu le motif du contrôle, j'ai dit que je voulais accéder à mon sac. Je n'ai pas réussi à être clair, je n'ai pas réussi à trouver ça normal que ce policier m'attrape violemment à la gorge, escalade dans la violence. Je n'ai pas réussi à trouver normal de ne pas pouvoir respirer tandis qu'un autre policier tentait de me faire une clé, escalade de la violence, escalade de la violence. Ceux qui n'ont jamais connu de confrontation physique ardue ont sûrement du mal à imaginer comment cela peut être violent d'avoir un homme armé à votre gauche en train d'essayer de vous tendre le bras tandis qu'un autre face à vous est également armé, vous saisit à la gorge. Là, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir à vous décrire la violence d'une telle scène. Je n'ai pas réussi à me dire que tout ceci n'était pas disproportionné. Je n'ai pas réussi à garder mon calme puisqu'on voulait me nuire physiquement, m'empêcher de respirer et imprimer une tension sur mon bras. Je n'ai donc pas réussi à me laisser faire, je n'ai pas réussi à me laisser faire. Je n'ai pas réussi à penser que j'étais en droit de répliquer par la violence. Je n'ai pas réussi à faire autre chose que de me dégager de cette pression intolérable. J'ai écarté les bras de mes assaillants, je me suis dégagé de leur étreinte douloureuse. Je n'ai pas réussi à être violent à leur égard, Dieu merci. Je n'ai pas réussi à perdre mon sang-froid, Dieu merci. Ensuite, j'étais très mauvais et je m'en veux. Je n'ai pas réussi à esquiver le jet de gaz lacrymogène qui s'est présenté à 15 cm de mes yeux. Je n'ai pas réussi à essuyer mon visage avec mon t-shirt puisque j'étais menotté la seconde qui a suivi. Je n'ai pas réussi à empêcher les larmes brûlantes de couler sur mon visage puisque la seconde d'après j'étais fauché par l'arrière, tombant de tout mon poids sur le dos. Je n'ai pas réussi à savoir si j'avais été projeté au sol avant le passage des menottes ou après. J'avoue qu'à ce moment-là, tout était confus et flou. Je n'ai pas réussi à déterminer lequel des deux ingrédients, le gaz lacrymogène ou la colère, brûle le plus le visage. Je suis sorti après 7 heures de garde à vue. Si j'ai pris le temps de vous écrire, c'est parce que ce soir, je ne réussis pas à me dire que j'ai mal agi et que les policiers étaient dans leur bon droit. Je ne réussis pas à me dire que demain, je reprendrai le métro et que si je vois une scène similaire, je passerai mon chemin et détournerai le regard. Je ne réussirai pas. J'ai été rappelé à l'ordre. J'ai été mis en garde à vue. Je vous écris pour vous dire que je suis vivant et que ce n'est pas de mon sort que je me préoccupe aujourd'hui. Je vous écris parce que j'aimerais savoir qui va se charger de rappeler à l'ordre ces policiers qui considèrent les citoyens de ce pays comme des moins que rien, comme des gens qui peuvent être molestés et humiliés en public.